Je remercie le Seigneur pour les possibilités qu'il me donne d'annoncer ta parole et aussi d'apporter la bénédiction pour chacun de nous ce matin. Au cours de ces quelques mois que j'ai voyagé, j'ai constaté dans plusieurs églises que ceux qui prennent des responsabilités sont toujours les mêmes. Il y a beaucoup de responsabilités dans l'Église, mais ce sont toujours les mêmes qui le font. Et ce n'est pas toujours dans notre Église, mais partout. Quand on regarde un frère, quand j'étais à Madagascar récemment, un frère qui était avec nous, qui travaillait avec nous, il est ancien d'une Église. Il est aussi responsable de groupes, du couple dans l'Église. Il est aussi responsable d'une association EFF et tant d'autres. J'ai dit, mais pourquoi? Et même moi-même, je fais beaucoup de choses. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des jeunes ou de plus jeunes qui devraient prendre des responsabilités, mais non pas toujours les mêmes. Peut-être vous allez me dire, mais c'est toujours comme ça dans l'Église. C'était toujours comme ça depuis. Oui, je me suis posé aussi la question, pourquoi les gens ne s'engagent pas? Pourquoi les jeunes ne s'engagent pas? Est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est ma faute? Je me pose aussi la question. Est-ce qu'en tant que leader, est-ce que je sais transmettre le désir de servir les seigneurs? Est-ce que je donne envie, en tant que leader, de qu'il y ait une bénédiction dans le service du Seigneur? Est-ce que je donne envie à chacun des membres de l'Église cette soif, cette joie, cette paix que Dieu donne, cette puissance que nous avons dans le service de Dieu? Je me suis dit, mais non, peut-être aussi, ce n'est pas mon rôle seulement, mais peut-être aussi, il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui ne veulent pas s'engager dans l'œuvre de Dieu. Peut-être c'est la peur. Peut-être aussi, c'est le manque de temps. Et c'est là que m'a amené à méditer un texte que nous connaissons bien, un texte qui parle de la volonté de Dieu, qui parle de l'œuvre de Dieu et qui parle aussi de notre responsabilité à chacun. Ce sont des textes que nous connaissons bien, c'est dans Luc, chapitre 10, versets 1 à 4, et Luc, chapitre 10, versets 17 à 24. Je vais demander à Isabelle de lire le premier texte et puis à Michel de lire le deuxième texte.
Luc chapitre 10, versets 1 à 4. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, deux à deux, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître, le seigneur de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. »
Merci. La suite, c'est dans Luc 10, 17 à 22. Tu peux te lever comme ça. Hein?
Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient, « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en son nom. » Oui, leur répondit-il, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria : Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre nos mains. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui qui est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier : Heureux ceux qui voient ce que vous voyez, car je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils auraient voulu entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu.
Merci. Donc, dans Luc 10, après que Jésus a enseigné, a révélé les miracles dans son ministère, maintenant, ils envoient les disciples pour accomplir les tâches et surtout pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ce texte nous décrit comment il faut procéder dans l'annonce de la bonne nouvelle. Jésus a déjà enseigné plusieurs fois et a montré aux disciples comment faire quand on est devant des responsabilités. Voici quelques remarques que je trouve très intéressantes en soulignant les différentes recommandations que Jésus donne aux disciples. D'abord, il désigne. Il désigna 70 autres disciples. Ici, ce sont des gens choisis, appelés pour accomplir des tâches, pour annoncer la bonne nouvelle. Il parle aussi des autres. Je me suis posé, c'est qui sont ces autres? Est-ce que ce sont les 12 disciples ou quelques-uns d'autres qui sont dans le service? Puis, notre recommandation, c'est qu'il faut aller deux par deux. Je crois que c'est ce qu'ils font l'équipe d'évangélisation. Quand ils vont à Tivar ou ailleurs, ils partent donc deux par deux pour annoncer l'évangile. Là, c'est un bon exemple qu'on doit apprendre. Et un autre point que je trouvais intéressant, c'est que quand Jésus envoyait les disciples, lui aussi, il y était allé avec. Ça, c'est un exemple que j'ai appris. Jésus n'a pas seulement envoyé, mais lui aussi, il est parti avec eux. Mais un autre point qui nous touche ce matin, c'est ce verset 2. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la mission. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. À qui Jésus adresse cette parole? Aux 70? À ceux qui sont déjà engagés? À ceux qui déjà sont appelés à accomplir les tâches? Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'il faut prier? Nous savons tous que la prière, c'est la force dans notre vie spirituelle. La prière, c'est la clé de tout succès. Comme un certain Andros, serviteur de Dieu, a dit, « Prier, c'est la clé de la réussite en toutes choses. » Aucune activité dans la vie n'est importante que la prière. L'efficacité de toute autre activité dépend de la prière. L'apôtre Paul nous encourage de prier sans cesse, d'avoir du temps pour chercher la face de Dieu. Eric Warren, que nous connaissons bien, ses livres, plus vous priez, moins vous paniquez. Tiens, c'est pas mal, hein, hein? Plus vous priez, plus moins vous paniquez. Plus vous adorez Dieu, moins vous vous inquiétez. Vous vous sentirez plus patient et moins de stress quand vous priez. Amen. Amen. Oui, un serviteur de Dieu, il y a quelques années, était venu ici. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle de ce qu'il a dit. Il a dit, il a parlé sur la prière. Et pendant notre week-end de l'église, on lui a posé la question, « Frère, combien de temps tu passes dans la prière ?» Et il a dit 15 minutes. Oh. Tout le monde se regardait. Et après quelques minutes, il a dit, 15 minutes toutes les heures. Ah, c'est Dudley Ward. Dudley Ward, hein, c'est ça son nom?
Ah, Dudley
Ward. Ouais. Donc, c'est lui qui nous a parlé de ça. J'ai dit, mais tiens, 15 minutes toutes les heures. Mais pendant qu'il a dit 15 minutes, tout le monde se regardait. Lui, qui est un homme de Dieu, il prie seulement 15 minutes, mais c'est toutes les heures. Et quand Jésus a envoyé les disciples, pas seulement prier, mais il a recommandé qu'ils vont être envoyés au milieu des agneaux, comme des agneaux au milieu de l'eau. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Quand j'ai lu ça, ne portez pas des souliers. Est-ce que des souliers d'échange que Jésus veut parler qu'il ne faut pas porter? Ou bien qu'ils ne vont pas mettre des souliers, mais marcher à pied, d'après vous? C'est quoi? C'est marcher à pied. Il faut, hein, il faut pas porter des souliers. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est ne saluer personne. C'est, mais comment on va faire? Si vous allez annoncer l'évangile, de ne pas saluer ni regarder quand tu traverses la rue en allant à Tivar, que tu rencontres Jean-Charles. Il ne faut pas saluer. Étienne, il ne faut pas le saluer, il faut y aller. Va tout droit dans l'annonce de l'évangile. Et un jour, et puis j'ai réfléchi, si on va faire une annonce offre d'emploi. Et dans l'annonce, vous dites cherche ouvrier qui est prêt à aller comme un agneau au milieu de l'eau. Premier point. Deuxièmement, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Je vous pose la question, est-ce qu'il y aura des candidats pour répondre à ça? Hein, d'après vous, est-ce qu'il y aura? Dis-moi ce qui est d'accord. Est-ce qu'il y aura des candidats? Hein? Seulement? Mais vous êtes déjà, n'est-ce pas? Vous avez accepté Jésus d'aller. Amen. D'accepter de ne pas saluer les autres. De ne pas porter de bourse, ni de souliers, ni de sac, mais de faire au nom de Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus demande à ses disciples de ne pas porter ni sac, ni bourse? Pourquoi? C'est pour être attentif dans la mission. Parce que la mission est grande et c'est un combat spirituel de ne pas être chargé des choses. Être distrait, mais d'aller annoncer la bonne nouvelle. Oui, vous êtes déjà dans l'œuvre de Dieu. Vous êtes déjà appelé à faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais tous ceux qui ont suivi le Seigneur, tous ceux qui ont mis en pratique cette parole, et les disciples qui ont accepté de suivre le Seigneur, ils ont eu la victoire. Amen. Ils ont eu les résultats dans leur ministère. De ne pas porter, de ne pas être embarqué par beaucoup de choses, ils ont eu des résultats. plus nous acceptons à suivre et à faire la volonté de Dieu, plus nous voyons que Dieu est avec nous. Et là, ce qu'il nous dit, c'est qu'au verset 17 de ce chapitre 10, ce qui se passait, c'est que les disciples sont de retour et dans la joie. Ils sont dans la joie parce qu'ils ont vu les démons qui sont soumis à leur autorité. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est... Ils ont vu ce résultat parce qu'ils ont obéi au Seigneur. Et c'est là ce que Dieu nous appelle aussi, c'est de mettre notre vie, notre engagement dans l'œuvre de Dieu et nous verrons les résultats. Nous verrons cette grâce que Dieu nous donne. Et je crois que les disciples, quand ils se sont rencontrés avec Jésus, chacun a raconté ce qu'ils ont vécu, leur contact. Il y en a qui disent « Alléluia !» Les démons se sont soumis à nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Et nous aussi. Donc Dieu nous appelle à être des témoins, à être des hommes faits pour accomplir la gloire de Dieu et la volonté de Dieu. Et nous avons vécu ces choses à Madagascar, dans plusieurs domaines. C'est que Dieu nous appelle à être des proclamateurs de la bonne nouvelle. Dieu nous appelle à annoncer cette bonne nouvelle à tous ceux que nous côtoyons, en famille, dans le travail, dans la rue. Et Jésus, quand il a entendu les disciples annoncer avoir la joie que les démons se sont soumis, lui aussi, il était dans la joie. Il tressaillait de joie, Jésus. Et il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a confirmé, et c'est ça qui est merveilleux, Jésus a confirmé cette puissance qu'il a donnée aux disciples. C'est la première mission des disciples. Et là, il a vu que les disciples aussi ont l'autorité. Et lui, il était dans la joie. C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir que des âmes sont sauvées. Que des âmes, que beaucoup d'âmes donnent sa vie au Seigneur. Et c'est ce que nous voyons aussi quand on amène des gens au Seigneur, on est dans la joie, n'est-ce pas? Et c'est ça qui nous pousse à aller de l'avant pour accomplir donc la volonté de Dieu. Nous sommes tous appelés à être un instrument entre la main de notre Dieu. Et le texte qui nous parle de tout ce qui cherche le Seigneur, tout ce qui veut accomplir sa volonté, devrait suivre le chemin et les recommandations. Et quand nous suivons ce que Dieu nous demande de faire, nous sommes dans la joie. Et ce que j'encourage à chacun de vous, c'est de chercher la face, c'est de chercher les seigneurs, c'est d'être aussi un instrument entre la main de Dieu et accomplir ce que Dieu nous appelle. Notre tâche, la tâche de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile, proclamer la bonne nouvelle du royaume. Ça, c'est notre rôle. Il ne faut pas qu'on oublie cette tâche. Et parce que c'est ça qui donne la joie au ciel. N'est-ce pas? Il y a un verset qui dit, il y a plus de joie dans le ciel pour une personne, pour une âme qui se repent. Et nous aussi, quand on annonce l'évangile, quand on amène des âmes au Seigneur, il y a de la joie. Et notre joie, que j'aimerais partager aussi, c'est la joie non seulement d'annoncer l'Évangile, d'amener des âmes, mais aussi d'implanter des églises. Nous allons parler tout à l'heure. C'est une joie, une naissance dans l'Église si nous implantons d'autres églises. Comme une Ralph Chalice qui a dit, l'Église est une cellule vivante. On met au monde un enfant, il grandit, après il travaille, il se marie, après, il met au monde un enfant, et puis ainsi de suite. C'est ça l'Église. Nous annonçons l'Évangile, nous formons, formation des disciples, et nous envoyons envoyer en mission. Et ça continue. Et c'est ça que je trouve, pour moi, c'est une joie de voir des hommes et des femmes qui partent pour accomplir. Parce que les chaises vides vont être remplies par les actions, par les activités, n'est-ce pas? Tout ce qui, les postes vides dans l'Église vont être pris par ceux qui ne sont pas engagés. Donc, c'est ce que je vous encourage. Notre pasteur à l'Assemblée générale demande qui va faire telle tâche, qui va faire telle tâche. Pourtant, nous avons combien? Plus de 70 personnes dans l'Église. Donc, nous avons besoin des personnes qui s'engagent pour l'œuvre de Dieu, implanter des églises. C'est une joie. Et nous espérons que dans quelques années, à Tivar ou à Damaris, il y aura d'autres églises qui vont être créées. Et c'est ça. À Madraska, c'est une grâce de vivre cette multiplication d'églises. Donc, on va vous montrer tout à l'heure ce que nous avons commencé avec 4 églises. Donc, on était à Madagascar en 90. Maintenant, chaque année, quand on retourne, il y a toujours des églises, des nouvelles églises qui se créent. Et maintenant, nous sommes à 130 églises dans toute l'île. Et vous avez prié pour le Nord. Il y avait qu'une église en 2015. Nous avons prié pour ça. Vous avez prié pour ça. Maintenant, nous sommes combien? Je vais vous montrer tout à l'heure. C'est une joie. C'est une bénédiction d'annoncer l'Évangile, de voir des âmes qui se convertissent. Et Chartres, c'est une église pilote dans cette région. Depuis des années, vous êtes un témoin. Ne perdez pas la vision. Annoncez l'Évangile, implantez de nouvelles églises, et ainsi de suite. Et l'Église va rester éternellement jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. C'est ça notre vision, c'est ça notre tâche en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est la volonté de Dieu, mais ne soyons pas figés dans notre marche ici-bas. Car c'est ça que Dieu nous demande de faire, c'est de se soumettre à lui, de ne pas être obstiné dans notre position que voilà ce que je vais faire, je reste là. Mais être libre à écouter la voix du Seigneur et accepter, à transformer, à changer de notre manière de vivre, car c'est Dieu qui nous appelle. Que Dieu nous aide à être des témoins et accomplir cette tâche, prier le maître de la maçon qu'il envoie des ouvriers. C'est à nous, à chacun de nous, aussi de s'engager et de prier dans ce sens. Que Dieu vous bénisse. Amen.